Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 202. Mon nom est Paul Landriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Et nous avons comme invité cette semaine un invité spécial, Benjamin Pelletier. Benjamin, bonjour.
Ringo Starr.
Ouais, le Ringo de notre groupe.
Je le prends 100%, salut Paul.
Benjamin qui, bien sûr, est critique pour nous à Point de vue .net et qui va également écrire dans le prochain numéro de séquence.
Ouais, le nouveau numéro de janvier avec 20th Century en couverture, changement de rédacteur en chef.
Ouais, c'est notre ami Jason Béliveau qui est en rédacteur en chef de séquence, on le salue.
Oui. Ouais. Allô Jason.
Première chose les gars, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que vous passez des belles journées de fin d'année.
Yo man, on vient de finir de déballer les cadeaux dans ma famille là. Là on record là pour la petite soirée. On est le 27 décembre, 9h20 le soir. Là, genre à la seconde on vient de donner genre notre cadeau à nos parents puis là OK bon, il faut que je m'en aille recorder le podcast. Hey, c'est de la dévotion ça les amis dans le temps des fêtes là, fait que je suis là.
C'était comme le seul bout où on pouvait se synchroniser là finalement.
Bah
ben
ouais, c'est correct.
Mais ouais.
Mais bien engraissé là de fromage et de foie gras et compagnie là, c'est ça le temps des fêtes hein. Et de bons films, gavé
ouais,
de bons
moi,
films.
Moi je sors de Uncut Gems avec Benjamin là, fait que on s'est même pas parlé en sortant de la salle. J'ai décrissé bien vite, fait que j'ai hâte d'entendre ça.
Yes. Et puis, d'ailleurs, les gars, est-ce que vous avez reçu, mettons, ou donné des cadeaux qui ont rapport au cinéma pendant les fêtes?
OK, j'ai la meilleure blonde de la Terre, les gars. J'ai reçu le calice de gros livre de The Deer Hunter, là. Tu sais, le livre, ils en ont fait juste un... depuis le 12 décembre qu'ils ont sorti les tirages, puis que oui. Là, tu sais, il y a comme, je sais pas, une couple de centaines de copies là, qui en ont fait. Pis c'est magnifique. Fait que, ben moi, pour ceux qui suivent le podcast, je suis un grand fan de ce film. Tu sais, c'est un peu un attachement irrationnel, tu sais, c'est-à-dire, même quand j'essaie de le regarder avec des lunettes objectives, c'est un film que j'adore de A à Z, mais c'est mon film préféré pour des raisons qui transcendent comme l'objectivité, là. C'est un peu ma Bible, je l'écoute à chaque année, bon, tout ça. Et voilà, fait que moi, oui, j'ai reçu ça. Et je me suis fait donner aussi un jeu de cartes cinéphile, a card game. Puis si je l'ai pas encore joué, je me suis dit que j'allais jouer avec mes amis cinéphiles. Et quels amis plus cinéphiles que mes amis du podcast? Fait que j'imagine que peut-être autour du jour de l'an, là, il y aura peut-être un jeu de cartes de cinéphiles.
Hein?
Ouais.
Non, mais tes cadeaux gagnent, clairement.
Par chez vous, ça ressemble à quoi?
Ben, moi, j'ai. Ça a été moins un cadeau cinéphile, mais tu sais, j'ai eu des sous de mes grands-mamans, là. Puis, je me demandais qu'est-ce que j'allais m'acheter. Puis, j'ai dû sortir d'un code jump, là. J'ai vraiment le goût de me pogner de vinyle, là. Juste pour vous dire, ça donner un petit input de mon appréciation. Là.
Une trappe sonore qui est encore signée One Point Tricks or Never.
On a Tricks or Never, là. L'électronique expérimentale, là. Assez dark, souvent, là. Je sais pas, dans le code jet. C'est quoi le ton de ce fucking film-là? Ça a l'air comme drôle, cabochon. Ça a l'air de comme un Beach Bum, mais version New York Gritty des Frères Savdi, un peu.
Ben, moi, j'ai pas aimé Beach Bum, là. Fait que c'est sûr, c'est pas une référence. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça, mais t'as un peu le côté sleazy guy. Mais tu sais, c'est un gars qui mise beaucoup d'argent sur, disons, qu'il peut pas s'empêcher là, de gambler. Mm. Fait que, tu sais, c'est rough, là. C'est rough comme un film des Frères Savdi, mais il utilise un petit peu l'awkwardness d'Adam Sandler pour ajouter de l'humour au travers.
Mm-hmm. Ouais, puis, ben, c'est peut-être pas une influence, mais quelque chose, un film que ça m'a clairement rappelé, ben, je veux pas à cause de Sandler. Puis, je veux dire, Sandler, tu peux pas l'utiliser. Tu sais, il y a des films comme Ring Over Me, là, puis une couple de trucs qui ont vraiment essayé de l'utiliser pour son potentiel dramatique, mais il faut vraiment que tu le prennes pour qui il est, tu sais. Puis P.T. Anderson avec Punch Drunk Love le faisait vraiment bien, puis l'espèce de mood un peu nerve-wracking du début de Punch Drunk Love se fait ressentir pas mal, je trouve, dans Uncut Gems, même si on est dans des univers et des types de personnages complètement différents, là, mais ça maximise vraiment bien la persona Sandler, là.
OK, ben parfait. Fait que parce qu'on dirait que c'est dissonant, la musique de Netflix Point Never avec, genre, Adam Sandler.
Ben, en fait, ça a l'air un peu de l'électro années 80. Ça me rappelait le soundtrack de... Le côté kitsch soundtrack de Rain Man, là. Okay. C'est comme de l'électro sur du keyboard, puis... C'est comme un peu out of place, mais en même temps, ça rajoute tellement de vibe intéressante au film.
OK.
Puis ça se passe comme en 2012. T'sais, c'est comme un period piece d'il y a genre 7 ans, là. Fait que, ouais, c'est vraiment particulier.
Ouais, puis tu sais, les influences sont claires, là. Je veux dire, c'est clairement un descendant spirituel de beaucoup de cinéastes des années 70, là, tu sais, très clairement. Je sais pas si
Ben, on peut en parler.
On est déjà dedans, c'est ça qui se passe.
Allez-y, là, qu'est-ce qui se passe là, avec Uncut Gems, d'ailleurs, qui est en train en ce moment d'apparaître sur plein de listes de fin d'année top 10 et qui vient enfin de sortir à Montréal pour Noël au cinéma de l'art et au cinéma moderne.
Ouais, mais donc, gros momentum, hein. On dirait qu'il gagne du momentum, ce film-là.
Ouais.
On dirait que ça se pourrait comme qu'il se retrouve, genre, nommé aux Oscars. Là.
Voir meilleur acteur. Adam Sandler, d'ailleurs, qui racontait qu'après avoir vu le film, Daniel Day-Lewis l'a téléphoné pour lui parler de sa performance. Tu sais. Quand même cool, venant de l'acteur principal de Grown Ups 2.
C'est ça. Mais c'est drôle, Rémi, que tu dis, c'est ça un peu un film d'époque d'il y a 6 ans, mais en fait... ce film-là, ça fait, pour faire un topo rapide, là, ça fait presque 10 ans, je pense, que c'est en chantier. Il y a tout le temps eu une intrigue de liée avec le basket, qui à la base est avec un autre joueur. Là, parce que moi je suis un gros fan de basket, puis je connais beaucoup ça. Fait que j'étais un peu. Il y a du vrai basket dans le film, puis des vrais matchs. Qui, pour ceux qui connaissent pas la ligue, des enjeux importants dans l'histoire, tu sais.
Je me demandais, le joueur de basket, c'est un vrai joueur, là.
Ben, le joueur qui est pris pour jouer son propre rôle, c'est Kevin Garnett, qui, à ce moment-là, était dans les Celtics de Boston. Puis les matchs de série éliminatoire que tu vois dans le film, c'est tiré des vrais matchs. Tel game où Sandler parie sur tel stats du joueur, c'est des vrais stats. Je veux dire, c'est... Puis c'est ça, puis les Savdis, dans le fond, ont tout le temps... Parce que ça, c'est un peu une version... c'est la version la plus glamour à date de loin d'un film des Savdis, là, tu sais, je veux dire, on parle de cinéastes, de leur court-métrage jusqu'à Good Time.
On est dans l'overdose d'héroïne, puis on est, tu sais, dans des...
C'est on est vraiment trash, dans là, une réalité très, très rugueuse, tu sais, je veux dire, Heaven Knows What, c'est eux qui ont demandé à
une vraie toxicomane,
à une ex-junkie de jouer son propre rôle, d'écrire son mémoire, tu sais, je veux dire. Mais en même temps, il y a un côté, sans dire fantaisiste... Il y a un côté un peu laissé aller, mixé à ce réalisme-là, que je trouve très, très le fun dans leur cinéma. Moi, j'avais vu Good Time en premier. C'est mon introduction à eux. Je peux pas dire que j'avais embarqué, mais là, je me suis tapé d'autres de leurs films. J'ai vu leur court-métrage. Ils ont un court-métrage qui s'appelle The Black Balloon, qui est un hommage au Ballon Rouge d'Albert Lamorisse. Okay, sauf qu'au lieu d'être à Paris et d'être un film pour enfants, c'est genre un ballon noir qui se promène dans des bouts de trash de New York. Tu sais, je veux dire, c'est. Il y a quelque chose dans leur cinéma qui est vraiment entre le gritty, le brut et le fantaisiste que je trouve qu'il n'y a pas grand monde. Tu sais, peut-être Sean Baker, tu sais, qui serait un peu comparable à ce niveau-là, mettons.
Ouais.
Ben, tu sais, la signature Scorsese aussi, tu sais, je pense que juste. Ils sont dans le film pour l'appuyer, mais c'est sûr que j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a de plus proche à du Scorsese dans l'intention, dans ce qui se fait au niveau moderne, là.
Ouais, puis même moi, ça me fait encore plus penser à Robert Altman là, dans l'utilisation des dialogues surimposés.
De toute façon, de vraies personnes aussi, tu vois qu'il y a comme... Ben, ça, le joueur, je savais pas, là, je suis tellement pas calé en basket, honnêtement, là, mais tu sais, je me doutais que ça devait être un vrai joueur, puis toutes les... Il y a plein de personnages qui rencontrent des personnages secondaires, puis ça paraît là que c'est comme du vrai monde, là, tu sais.
Ouais, il y a plein de non-acteurs, puis même la fille qui joue, genre, sa maîtresse, ils l'ont dénichée de je sais pas où, mais tu sais, elle commence sa carrière, là, je veux dire, c'est ça. Même si on est rendu, entre guillemets, dans le plus gros film des Savdis, puis qu'on n'est plus dans la rue, là, on est dans des boîtes de nuit, dans des gens qui se font des paris à des centaines de milliers de dollars, tu sais, mais le réalisme... est encore là, tu sais. Ça, c'est vraiment chouette à voir, tu sais.
Mais là, donc, c'est-tu comme la meilleure affaire ever, ce film-là? Là? C'est-tu comme la meilleure affaire du monde? Parce que là, moi, j'ai trop hâte, là.
Ben, moi, c'est mon film préféré de l'année, là. Je l'attendais pas mal, peut-être même un peu trop, puis j'ai pas été déçu. Il y a une énergie, puis je veux dire, il y a beaucoup de monde qui ont parlé de la réaction presque physique qu'ils ont eue en le voyant, là. C'était carrément d'être stressé, puis au bord de ton siège pendant 2h15. C'est un film qui est extrêmement drôle aussi. Là. Je veux dire, il y a des moments carrément laugh out loud. Là. Peut-être pas au cinéma moderne.
C'est toi qui a échappé ta bière.
J'ai brisé mon verre. Oui, pour les gens qui étaient dans la salle, j'ai brisé un verre de bière dans les premières 5 minutes.
Il faut que tu t'excuses. Quel salaud.
Ouais, je m'excuse aux gens qui étaient dans la présentation.
Merci Benjamin, en fait, on t'a invité juste pour ça.
On me dirait que ça fit pendant un film des frères.
Ouais.
Ce petit côté...
Benjamin était assis en arrière, puis à un moment donné, j'entends juste un bruit de verre qui pète, je me retourne, puis je le vois qui est comme penché en dessous de son siège. Oh bon.
Ouais, je m'excuse à mes collègues du cinéma
cool,
aussi.
C'est cool, en fait, moi, j'étais jamais allé au Moderne. C'était ma première... Ma première fois, puis j'ai vraiment trippé, là. C'était vraiment un beau spot, puis ça, là, amener sa bière dans le cinéma, je pense que c'est un dream.
Ouais. Aussi,
de pouvoir faire ça,
c'est une séance Dolby Atmos pour ce film-là. C'est pas tous les films qui en bénéficient.
Ouais, 4K Dolby Atmos. Il y avait eu un Atmos pour Irishman aussi. Par contre, Irishman, qui est un film beaucoup plus... c'est beaucoup plus posé, beaucoup de scènes de dialogue. L'atmos se fait vraiment, vraiment bien ressentir pour Uncut Gems. La musique, je dirais, les dialogues, là, je dirais, combien de scènes que t'as des 3, 4, 5 personnages qui parlent en même temps, là, c'est d'où le côté très Robert Altman. Ça te ramène à un certain type de film, là, je veux dire, The Gambler de Carol Reiss avec James Caan ou California Split de Robert Altman, là, je veux dire, avec des genres de cutéreux qui vivent un peu on the edge puis qui sont un peu crush mais qu'on aime quand même, tu sais, je veux dire, c'est très très bien réussi dans cette veine de film.
Ouais, c'est un il est vraiment loser puis il est vraiment dégueulasse, mais tu peux comme pas t'empêcher de le trouver attachant, là, Adam Sandler, parce qu'il est comme c'est un raté sympathique, là, fait que tu root avec lui, c'est certain, là, parce qu'il y a du monde pire que lui autour de lui.
Toi, Rémi, partages-tu l'enthousiasme de Benjamin?
Ouais, ben, pour l'instant, il est pas au top de ma liste, mais il est assez haut quand même, d'après moi, là, en même temps, il va falloir que je le décante un peu, là.
Ouais, ben, c'est
mais
ça.
Mais il est dans mon top 5, là, je dirais, là. Mais, sérieux,
quand même...
moi, cette année, ouais. Là, pour vrai, au milieu de l'année, je trouvais qu'il n'y avait rien de bon, mais à chaque année, ça fait ça, là. Puis ma liste, elle est comme... je suis vraiment content cette année de ce que ça donne. Je trouve qu'on a une belle année de cinéma pour conclure la décennie. Puis avec des films comme ça, des films assez étranges aussi, je pense que l'année nous en a donné en masse. J'ai bien hâte de voir vos tops, en tout cas. Il me reste encore un Portrait of a Lady in Fire à voir, Pascal.
Mais là. On peut-tu dire ce titre-là en français, s'il vous plaît? C'est quand même un film français d'une grande cinéaste française.
Ouais, j'allais manquer moi aussi, puis c'est ça, là, je veux dire, ma liste... je sens que ma liste va avoir comme un espèce de trou par défaut, parce que j'ai pas vu ce film-là, là. Ben, du moins, selon ce que Pascal a dit. Là.
Ouais, non, mais c'est trop bon. Là.
Mais ça, c'est toujours le cas. Puis aussi, tu sais, il y a eu... Puis je comprends, tu sais, il y a quelques-uns des collègues que je respecte beaucoup, tu sais, puis notamment Peter Rist, professeur à Concordia, tu sais, qui sur les médias sociaux dernièrement, c'est un peu... il s'est élevé contre tous ces listes et cet exercice-là qui est très futile puis qui fait juste renforcer finalement un peu le même canon très européen-centrique, tu sais, très américain, qui récompense un peu toujours les mêmes films. Et je comprends pourquoi. Tu sais, je comprends que l'exercice des listes, c'est pas un exercice parfait, mais ça devrait toujours être un peu le point de départ vers quelque chose. Tu sais, toi, Pascal, qui fait beaucoup de listes, puis notamment qui vient d'envoyer tes meilleurs albums de la décennie. moi qui viens de faire les meilleurs livres que j'ai lus cette année, ainsi que tu sais, je participe à plein de listes. Faut pas oublier que c'est une façon de... C'est juste de donner un aperçu à l'instant T de ce que nous, on a vu en tant que critique, en tant que spectateur. Puis ça n'existe pas, l'objectivité. Puis c'est sûr que ces exercices-là, forcément, il y a un effet de popularité parce que je suis sûr que les excellents films là, indiens cette année qui sont sortis qui vaudraient peut-être plus la peine que ben les films dans mes tops, mais c'est juste qu'ils ont été mal distribués ou je les ai pas vus ou on peut pas tout voir. Il y a plus de films qui se fait que jamais.
Ouais, donc, ça reste personnel tout le temps, là, c'est sûr. Puis l'année prochaine, on va avoir plein de films de 2019 qu'on avait manqué, qui vont finir par se rattraper. Moi, je suis rendu là, sur Letterboxd, je vous en ai parlé un peu, les gars. Ça m'a pris tellement de temps à m'abonner à ça, puis maintenant, je suis rendu vraiment fan. Pour updater des listes, justement, ça va être tellement vite de retrouver ce que tu peux faire dans ta liste. Puis je me suis basé sur les vieilles listes de points de vue que j'avais faites à l'époque. Je pense qu'on avait commencé en 2012-2013 sur points de vue.
2012.
Puis je les ai... 2012, ouais. Puis je les ai toutes recopiées. Puis après ça, je les ai updatées. Puis j'ai vu un peu comment ma pensée critique a changé.
À quel point ça vieillit bien des listes d'il y a 5 ans, man.
Hey, my God. Il y a des affaires qui ont droppé, là. Il y a des choses...
Ben, tout simplement, on sait que tu as continué à écouter des films. Tu sais,
j'ai vu des nouveaux trucs. Des recommandations que vous m'aviez données que j'avais jamais eu le temps de voir, que finalement j'ai
même,
vu.
Parce que juste les fameux films qui sortent en janvier, tu sais, je veux dire, Phantom Thread était dans la liste de personnes l'an passé, mais tu sais, Phantom Thread, c'est dans mon top 10 la fucking décennie, tu sais, parce que aussi, c'est ça, il tombait un peu dans les limbes du moment où on fait la liste de tous les films qu'on n'a pas encore vus. Mais moi, je veux juste rebondir là-dessus, parce que tu sais, moi, on dirait que je suis un peu un défenseur des listes, tu sais, je veux pas, on dirait qu'il est rendu là, je m'assume, tu sais. Puis c'est parce que, tu sais, entre nous, on a comme l'impression que c'est tout le temps les mêmes films qui sont récompensés. En voulant dire, mettons notre bulle, tu sais, la fameuse bulle, tu sais, moi, mettons, là, je fais mon top 4, mettons mon top 4 de la décennie, tu sais, je vais parler, mettons, d'une séparation, de The Master, de Winter Sleep, de Burning, tu sais. Là, ça pourrait être facile là, pour bien du monde de faire « Ah, c'est pas des films originaux, là, mais pour tellement de gens là, qui sont pas dans la bulle du cinéma, je suis genre calissement élitiste là, de genre mettre ces quatre films-là. » Tu sais, en voulant dire, c'est tellement relatif comme qu'est-ce qui est un film qui est acclamé, qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce qui l'est pas. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire un peu? Tu sais, comme mettons, je suis intéressé par, mettons, les romans, mais j'en lis pas assez, je suis pas, bon, je connais pas beaucoup, fait moi, là, sortez-moi une liste relativement mainstream là, de qu'est-ce qui a été bon là, au Québec ou à l'international en 2019. Là, je vais être bien content là, d'avoir un peu le doigt sur le pouls de comme qu'est-ce qui. Tu sais, moi, si je mets Parasite dans mon top 3, mettons, de l'année, là, ben oui, je sais que c'est pas original, mais tabarnak. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est ça qui est ça. Puis pour bien des gens qui suivent de loin, qui sont cinéphiles, mais pas tant, qui ont peut-être vu un poster, mais qui n'ont pas décidé d'attraper le film, eux autres, ils vont peut-être tomber sur ma liste, faire hey, Parasite numéro 2 de l'année, hein, c'est intéressant. Mm-hmm. Ça fait une couple de fois que j'en entends parler, je vais aller le voir. Fait que tu sais, pour chaque personne qui va trouver qu'on n'est pas entre gros calices de guillemets original, il y a tout un pan de gens qui va comme faire ah ben oui, tu sais, tel film, telle découverte, puis je sais pas. Puis moi, je suis l'élite de, tu sais, je suis le snob de quelqu'un, puis je suis le kidam d'un autre, là, tu sais, qui va toujours avoir des listes plus hermétiques ou plus obscures que moi. Tu sais, c'est tellement, faut tellement pas capoter avec ça, là. Faut juste découvrir des films, puis comme enjoy, là. Faut rester dans le mix d'exercice-là.
Puis si tu faisais un top 10 de films, tu sais, mettons par principe, tu dirais, OK, tout ce qui est acclamé ailleurs puis qui est populaire, je vais les éliminer. Puis tu mets juste 10 films obscurs. Mais finalement, les gens, ils vont juste comme abandonner devant comme le fait qu'ils reconnaissent absolument rien. Puis je pense pas que c'est la meilleure façon de promouvoir les films nécessairement, tu sais. Parce qu'ils vont faire comme, espèce de hipster, snob, tu sais, qui est déconnecté de la réalité. Je connais aucun de ces films-là. Fait que, toutes les positions sont bonnes, effectivement. Ouais. Puis, tu sais, c'est juste comme un exercice qu'on fait un peu pour le fun.
Moi, j'ai bien aimé les listes de 24 matchs de cette année. Dans le fond, il y avait leur top 10 d'équipe.
Personnel.
Il y avait leur top 10 qui était plus. Qui respectait clairement les goûts de chaque, puis qui était un petit peu plus mainstream, entre guillemets. Mais ils ont eu, ça disait un peu dans la petite explication, qu'ils avaient eu vraiment plus de liberté dans leur top individuel de vraiment rentrer des trucs qui leur tenaient à cœur, même si c'était pas des trucs que beaucoup de gens avaient vus. Ça, c'est une formule intéressante aussi, là. Toujours un plaisir de découvrir leur liste.
Absolument.
Qu'on salue l'équipe de 24 images. Puis d'ailleurs, ils ont enregistré un podcast parce que c'est. Bon, eux, c'est on and off le podcast depuis quelques années. Mais ils sont rendus assez quotidiens, assez assidus, devrais-je dire. Ils en font un ou deux par mois. Et là, c'était un peu donc le podcast de fin d'année, puis avec notamment Alexandre Fontaine-Rousseau qui défendait Beach Bum et The Dead Don't Die, tout en soulignant effectivement c'est des films pas du tout parfaits, mais qui avaient le goût de mettre de l'avant. Donc, je trouvais ça très cool comme podcast.
Oh ben absolument. Puis juste aussi un mot sur les listes de 24 matchs, by the way, c'est que, tu sais, moi, je fais tout le temps un peu une distinction par rapport aux documentaires. C'est pas du tout... Moi, j'en consomme énormément de documentaires. J'ai pas du tout un parti pris négatif envers la forme. C'est juste que moi, je trace une genre de ligne imaginaire. Je trouve que les documentaires en talking head avec un certain format, on dirait que je les écarte un peu par défaut. Pas que je considère pas ça comme du cinéma, mais on dirait que c'est pas ces films-là. Tu sais, c'est des films à sujet, c'est des films qui peuvent être extrêmement importants, mais c'est pas nécessairement, tu sais, je veux dire, est-ce que je vais mettre Leaving Neverland dans mon top 10? On dirait que par défaut, il se fait un petit peu écarter à mon avis. Je sais pas, eux autres, tu trouves qu'ils ont un beau focus. Ils ont beaucoup de gens déjà qui travaillent aussi, tu sais, dans les RDM d'une certaine façon. Puis il y a beaucoup de documentaires franchement intéressants qui popaient sur leur liste. Puis ça m'a vraiment donné le goût de voir d'autres sortes de documentaires, d'autres films. Justement, donc c'était intéressant. Il y a un côté pédagogique à ça d'une certaine façon. Puis il y avait plusieurs titres, là, des documentaires comme ça, notamment, qui m'ont vraiment donné le goût de voir. Donc,
ne croyez surtout pas que je hurle, man.
C'est ça, donc pourquoi je suis allé sur une liste? T'sais, là, tout à coup, j'ai 3-4 nouveaux documentaires que j'ai hâte de voir puis que je vais essayer de dénicher. D'accord, c'est quoi? Moi, je trouve que c'est juste du bon. Puis si ça t'écœure, ben, t'y regardes pas les crises de liste.
Pomme ta gueule. Pomme ta gueule, va-t'en chez vous.
C'est ça. Bon, en tout cas, bref. Ça pour dire.
Même chose, même chose avec les séries télé, là, on en reparle souvent, mais. Moi, j'en ai une à date dans mon top 10 cette année qui est comme une mini-série. Vous doutez peut-être, on en a déjà parlé au podcast, mais tu sais, à un moment donné, là, on commence à se blender le cinéma avec le ce qui est tout dans la télé, mais tu sais, c'est dur là, de mettre une ligne avec ça. Là. C'est vraiment, vraiment dur. Fait que je pense que c'est juste personnel à chaque. Tu sais, même Twin Peaks, j'étais comme, j'hésitais à le mettre, je l'avais pas mis sur mes listes. Je me disais, je mettrais pas de télé, puis finalement, là, cette année, je mets de la télé, fait que je commence à abdiquer aussi, là.
One of us.
Moi, j'ai un court-métrage dans mon top 10, hein, fait que, tu sais, comme quoi, on fait ce qu'on
Paul l'avait l'année passée aussi, là.
Ouais, j'ai mis un short dans mon top 10.
Rémi a dit qu'il voulait mettre Fire dedans.
Ben là, tu vois, il est en numéro 10, fait que ça se peut qu'il se fasse... déclasser si je vois d'autres choses.
Bon. Hey, mais là, ça fait à peu près 10 minutes qu'on dit que tout le monde sont tannés d'écouter des listes. Mais justement, en fait, je voulais vous dire que je participe à plusieurs sites web, en fait, en tant que critique et président de la QCC, tout ça. Et je voulais un peu rapidement en rafale vous parler de quelques films. Puis vous faire un peu, dans le fond, où je suis rendu dans mon année. Parce que, tu sais, les listes aussi, il faut dire que, tu sais, tous les sites web ont des deadlines différents. Fait que des fois, mes listes changent un peu au fur et à mesure. Et il y a notamment un site web, la liste n'est pas encore en ligne, mais j'imagine que entre le temps où on enregistre et qu'on publie le podcast, ça devrait être en ligne, sur le site nonfix.com, qui est vraiment un excellent site web américain sur le documentaire. C'est un peu une référence, là. Et ça fait plusieurs années, en fait, que j'envoie mon top 10 de l'année des documentaires à eux. Bon, évidemment, il y a plein de facteurs, notamment qu'est-ce qui est une vraie sortie. Tu sais, il faut qu'il y ait une sortie américaine, tout ça. Puis bon, ensuite, des fois, on peut tricher un peu, puis il y a plein de films que j'ai manqués. Mais rapidement, les documentaires que j'ai envoyés pour différentes raisons, mais Force Ama, dont j'ai déjà parlé au podcast, qui est vraiment très, très bon. Living Neverland, parce que je pense qu'au-delà de sa forme, c'est le documentaire qui a le plus d'impact réel cette année. Acadiana, court-métrage québécois, parce que je me suis dit, bon, ben, fuck, étant, c'est un excellent court-métrage, puis ça va peut-être permettre à quelques personnes de le découvrir. J'ai mis Ex Aequo, Fire, The Greatest Party That Never Happened et Fire Fraud.
Ouais.
Parce que, tu sais, on a déjà parlé, mais genre, les deux films sont indissociables. Puis je pense que dans le futur, on va toujours se rappeler de ce moment-là comme un des premiers gros beefs, là, des streaming wars. Tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, c'est un peu genre Kanye West qui sort son album le même jour que 50 Cent, là, puis on dirait que c'est le même genre de gros beef, là. Puis je trouve que ça, déjà, c'est comme une histoire en soi, au-delà même des documentaires, de ce qu'ils racontent. Delphine et Carole Insoumuse, c'est un collage d'archives vidéo, en fait, qui avait passé au FNC. C'était très, très cool sur Delphine, ses rigs et... non, c'est très, très bien. Memory, The Origins of Alien. Ça, c'est un documentariste qui s'appelle Alexandre O'Philippe, qui est en train de vraiment de développer sa propre niche puis d'être un peu le spécialiste de ça. C'est-à-dire les espèces de films, making-of, documents d'archives, exploration d'un film, vraiment pour les cinéphiles. C'est lui qui nous avait donné 72-57, quelque chose comme ça. Tu sais, qui est comme le nombre
des hommes?
Non, mais
le
documentaire sur la scène de la douche d'Hitchcock. De Psychose. Puis c'est genre 72 setups pour 52 secondes de film, quelque chose comme ça, là.
Oui, j'ai vu ça, il était passé à Fantasia.
Ouais, très très bon doc, là. Il a fait un film, Memory, The Origins of Alien, qui revient donc sur le film Alien. Vraiment très cool. Puis c'est sûr que mon appréciation d'Alien vient jouer dans le fait que j'aime ce film-là. Mais c'est vraiment très très bien. Puis il a sorti déjà un nouveau film cette année qui est sur Sorcerer de Friedkin. Donc,
chef d'œuvre.
Donc, j'ai hâte de voir le documentaire là-dessus. Framing John DeLorean, que j'ai déjà parlé au podcast. Mm-hmm. I Love You, Now Die, The Commonwealth vs. Michelle Carter, d'Eline Lee Carr. Celle qui nous a donné également le documentaire sur At the Heart of Gold, le scandale olympique.
Ça, je voulais en parler. Tu l'as-tu vu? Elle avait vu At the Heart of Gold.
Ouais, non. Je l'ai pas vu, malheureusement. J'ai pas
moi,
vu
là, si, OK, s'il y a... Il ne popera pas dans mon top 10 pour la raison fucking innocente que je viens de mentionner, que pour moi, je l'ai mis un peu dans une catégorie à part, encore une fois, pour quelconque raison. Mais s'il y en a un, moi, que je veux que, comme tout le monde voit, puis je le professe beaucoup, c'est vraiment ça. C'est un doc, tu sais, sur le scandale sexuel qui a perduré pendant 20 ans. Dans la gymnastique américaine, c'était leur genre de docteur là, en réhabilitation physique là, qui encadrait tous les meilleurs gymnastes américaines. Là. Plusieurs médailles olympiques et compagnie qui sont toutes passées par cet homme-là qui les a toutes violées. Là. C'est capotant. Là. Puis tu peux pas ne pas être fâché, mais c'est plus que fâché. Le film essaie vraiment de comprendre quelque chose qui... pourquoi ça a été. Je trouve que finalement, oui, ça parle de gymnastique américaine, d'une certaine façon, ça parle de. Mais ça parle tellement intelligemment d'un monstre et de comment que, tu sais, si on permet un certain climat, ces choses-là se produisent et vont continuer de se produire. Puis je trouve que c'est un film qui, donc, déborde de son côté film de sport, tu sais, que moi qui m'intéresse à la base, bon, tout ça. Non, c'est vraiment un film essentiel, j'oserais dire. Tu sais, je trouve qu'il y en a eu des films post-MeToo qui sont extrêmement topical. Il y en a eu qui étaient plus ou moins réussis, tu sais. Il y avait celui-là, là, qui se passe sur les campus américains, mais tu sais, ça, c'était vraiment. En tout cas, moi, je trouvais qu'il était. C'est des sujets hyper importants, mais en même temps, c'est tellement larmoyant, puis un peu, en guillemets, mal fait. Puis je trouvais que ça desservait la cause. Je sonne harsh, là, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. Mais celui-là, il est vraiment puissant. Là. En tout cas, ben, je voulais juste vous le dire, là, c'est de la crise de bombe, puis il faut voir ça. Donc, At the Heart of Gold, Inside the USA Gymnastics Scandal. C'est une réalisatrice qui s'appelle Erin Lee Carr. Ouais. Je trouve ça dommage même qu'il n'ait même pas shortlisté aux Oscars. Là. Ça aurait été un film que j'aurais backé. Là. Je trouve que c'est le film qu'il faut qu'on parle plus.
Ah, ouais, mets-le dans ton top.
Puis c'est ça, puis. Je dirais peut-être. Ouais, je dirais peut-être.
Puis son autre documentaire qu'elle a réalisé cette année pour HBO, I Love You Now Die, c'est quand même super intéressant. Puis vous avez sûrement entendu parler déjà de ce cas-là. Mais ça revient sur le cas de Michelle Carter, qui était une jeune adolescente au moment des faits de 17 ans, qui était en relation avec un jeune homme de 18 ans. Et c'est une relation moderne, donc principalement par texto. En quelques mois, il ne se serait vu en personne que 5 fois. Et le gars était déprimé. On apprend qu'elle aussi, elle avait beaucoup de problèmes de dépression, puis avec sa famille, tout ça.
Ah, OK, et, oui, je sais, c'est quoi cette histoire-là? C'est... Oui, oui, OK.
Et l'homme, à un moment donné, tu sais, était dépressif et suicidaire, et elle le poussait finalement. Bon, évidemment, c'est monté, puis on apprend au fur et à mesure des deux épisodes un peu qu'est-ce qui s'est vraiment passé, puis la timeline des événements. Mais pour résumer grossièrement, elle, par texto, elle est un peu convaincue de se suicider.
Oh oui, et, ça a fait les manchettes beaucoup, ouais, là, ouais, ce soir-là, a fait couler beaucoup d'encre. Ouais.
Puis lui, dans le fond, il s'est mis dans son char, il a mis un tuyau pour que le gaz rentre dedans, et en train de mourir, il lui parle au téléphone, puis à un moment donné, il ouvre la porte, puis il dit « Ah, je suis plus capable, tu sais, je suis en train de mourir, tout ça, je me sens pas bien. » Puis au téléphone, elle lui a dit, genre, « Get back in the car. » Puis là, ben, c'est toute la question de est-ce que quelqu'un qui est au téléphone a une responsabilité morale. Donc, ça soulève vraiment toutes sortes de questions. Puis en plus, bon, l'âge aussi de l'accusé vient jouer dans tout ça. Puis c'est vraiment un documentaire, certes, qui est pas flamboyant ou révélateur au niveau de la forme, mais au niveau des questions qu'il soulève, là, c'est absolument fascinant. Puis le cas en tant que tel, là, ça a des répercussions bien réelles là, de nos jours.
Ben oui,
donc ça, c'est sur HBO, I Love You, Now Die. Probablement le documentaire le plus surprenant que j'ai vu cette année, qui a gagné un prix à Sundance, c'est un documentaire de Brent Hodge, qui a passé 8 ans de sa vie à étudier la chanson « Who Let the Dogs Out
». Hein?
Et de comprendre les origines de cette chanson-là.
De quoi on parle, là?
Ouais. De la chanson des Bahaman, « Who Let the Dogs Out ».
Oui, Bahaman, là. Ouais.
Et que finalement, il se rend compte que cette chanson-là, elle a plein de références puis d'origines. Puis pendant ses recherches, il a comme engendré des poursuites judiciaires parce que justement, il y a des artistes qui pensaient qu'il y avait peut-être une raison légitime de demander des droits puis des royalties parce que c'est une chanson que encore aujourd'hui fait rouler énormément beaucoup d'argent. Donc, vraiment, chapeau pour genre toute la dévotion à cette question exemplaire qui est qui a laissé sortir les chiens.
Tu ne nous donnes pas la réponse, on ne veut pas savoir.
Il faut, faut écouter. Non, mais c'est vraiment fascinant. Tu sais, c'est parce que ça a l'air niaiseux comme film, comme prémisse, mais genre, c'est il y a plein de twists, puis de trucs, puis c'est super poussé, tu sais. C'est quasiment comme... tu sais, je sais pas si vous avez entendu parler ou écouté American Vandal, là, qui est un peu comme
une espèce de
pastiche Netflix sur les true crime stories. Mais ça a l'air quasiment de ça, parce que tu dis, ouais, c'est un peu cap de passer 8 ans de sa vie là-dessus. Mais le gars, il est fascinant, puis genre, c'est un pur geek là, de droit, puis de chansons, puis de rythme, qui va comme interviewer des DJ, puis remonter à la source, puis essayer de trouver d'où ça vient. Puis à chaque fois, il y a comme des punchs, parce que là, finalement, quelqu'un à quelque part à Miami aurait retrouvé un mixtape sur cassette de genre des jeunes qui s'amusaient, puis qui auraient fait de quoi qui pourrait genre vaguement ressembler à ça, mais dans le fond, ça ressemble beaucoup trop à ça. Donc, c'est quand même assez fascinant. Et le dernier, Bikram Yogi Guru Predator.
Ah oui, ça, je l'ai vu sur Netflix.
Oui, ouais, sur Netflix. C'est un peu comme tu disais, Pascal, sur le coach des Olympiques. Là, c'est, tu te rends compte que certains de nos héros, ils ont des lourds secrets. Encore une fois, pas nécessairement un film de révélation au niveau de la forme, mais c'est le genre de film qui est important, justement, pour que ce genre d'abus-là cesse.
Celui-là m'a fait passer un peu où il y avait la série Wild Wild Country sur Netflix. Je trouvais que c'était un peu dans la même vibe, là, la espèce de truc culturel, spirituel qui a comme envahi les États-Unis. Puis finalement, tout ce qui se passait en dessous, c'était. Il y avait de l'arnaque. Puis Wild Wild Country, moi, c'était comme. Ben, je pense que c'est l'année passée, ça, par exemple, mais c'était vraiment fort, là. Ouais.
Parfait. Sinon, d'autres actualités cette semaine, parce que là, on est encore dans les actualités. Hein. C'est cool qu'en 2019, on a enfin appris quelque chose des jeux vidéo. C'est-à-dire d'avoir des patchs
des
pour patchs, nos films,
des
les patchs. Amis.
Yo, ça, faut qu'on parle fou, de 4 un peu. Là.
Parce que là, ma copine l'a vu, la version, donc... Tu sais, la version qui va donner
beta,
un
version
Graal,
alpha, beta, 2.0.
Bon,
sais-tu ce qui a été patché?
Oui, c'est des effets spéciaux, en fait. Et puis, il y a eu... Tu sais, j'ai suivi un peu la saga sur Twitter. Donc, bon, pour ceux qui ne savent pas, 4, ce gros film de prestige Universal avec beaucoup d'effets spéciaux adaptés de la fameuse pièce de Broadway. Les effets spéciaux ont été comme rushés. Ben, pas rushés, mais il y a tellement d'effets spéciaux. Le film aurait dû être repoussé. Honnêtement, là, comme le film Sonic d'ailleurs l'a été pour un peu les mêmes raisons, mais c'est le gros film prestigieux de Universal pour les Oscars un réalisateur prestigieux, casting
qui vient d'être retiré de la course.
Juste par parenthèse, là, on a quelqu'un ici sur le podcast qui Tom Hooper, Andrew Lloyd Webber, quelqu'un est susceptible d'aimer ça ici là.
Ben oui, mais non, mais tu sais, mais en tout cas, tout ça pour dire que bon, ce film là sort rushé, ouais. Et même à la première, les gens se rendent compte avec toutes les vedettes, tu sais, parce que les vedettes n'avaient pas encore vu la version finale du film, parce que c'est un film qui a tellement d'effets spéciaux que c'est un peu impossible de savoir comme de quoi ça va avoir de l'air tant que tu t'as pas. C'est comme un Star Wars, ce film là, c'est tout sur green screen avec du mocap, puis c'est un peu genre les acteurs font confiance tout ça. Bon, là le film sort et il y a vraiment des effets spéciaux pas finis. Ma copine l'a vu, donc cette version-là.
Carrément des trucs moffés,
ouais,
pas finis.
La scène d'introduction de James Corden, il y a un zoom out là, après qu'il soit introduit, puis on voit le plancher à travers lui, genre ça glitchait, oh, là, ça scintille.
Oh
un
my
peu.
God!
Okay, je pensais pas que c'était si pire. Là.
Ouais, on voit des zippers. Judi Dench avait des mains humaines tout le long du film parce qu'il avait pas eu le temps de finir genre, sa transformation en chat. Fait qu'ils
à
ont
quel
laissé
point
les mains.
En une semaine, ils ont comme le temps de faire ça? Mais semble, une semaine, c'est vraiment pas beaucoup là, pour un film aussi lourd en effets spéciaux. Tu fais des.
Ben, tu sais, de nos jours, c'est que t'as comme 10 boîtes de VFX qui travaillent sur chaque grosse production.
Oh,
comme
ouais,
ça.
Là, mais.
Puis, la version que. Mais comme les jeux vidéo, en fait, c'est que, mettons, la version qu'ils ont envoyée, ça faisait peut-être une semaine que le DCP était masterisé. Puis là, ils ont continué à travailler, genre,
nuit et jour
pendant
ça.
Ce temps-là. Puis là, ils ont comme vu les réactions, puis les critiques ultra négatives, puis on dit, OK, on continue à travailler là-dessus. Ils ont envoyé une patch, genre, 2 jours plus tard. Fait que le film est sorti mercredi, ou jeudi, je pense, et le dimanche matin, il y avait déjà une nouvelle version dans les salles. Et il y a des contacts sur Twitter, tu sais, qui ont confirmé, dans des artisans de VFX, qui ont confirmé qu'ils étaient encore en train de travailler dessus. Je sais pas si on a un autre patch en cinéma, mais en tout cas, pour l'éventuelle version Blu-ray, il y aura encore une autre version avec des effets spéciaux améliorés. Et c'est pas la première fois qu'il y a des changements dans une version ou un Director's Cut ou peu importe, mais c'est la première fois qu'il y a vraiment une patch comme ça qui arrive à quelques jours de la sortie à peine. T'sais, on parle pas d'une version rallongée, on parle pas de remasterisation, on parle vraiment de comme corriger des effets spéciaux 2 jours après la sortie. Là. C'est quand même hallucinant. Puis ça ouvre une boîte de Pandore qui est vraiment dangereuse, je trouve. Là, imaginons là faut toujours imaginer le pire là, dans ces situations là, tu sais, 2024, un nouveau Star Wars sort, tout le monde chiale sur la fin, puis là Disney envoie une patch 2 jours plus tard, puis comme non la fin est correcte là, tu sais, ou tu sais retourner voir le film avec une nouvelle fin cette semaine, tu sais, pour encore plus presser le citron.
Ouais.
Fait qu'en tout cas, c'est tout un événement, puis on dirait que ça vient clore la décennie qui a tellement été digital, numérique, streaming, virtuel, qu'on dirait que ça vient comme mettre un point d'honneur ou un point de déshonneur
à cette
prout. Décennie. Là.
Puis là, on a dit qu'on irait, là, les gars?
Ben oui, ouais. Là, on ira voir la version 1.1 là, du film.
Ouais, on était censé, là, fait que... On vous en reparle, ça,
non,
c'est
non,
sûr.
Moi, je suis fucking game, là.
J'ai vraiment
moi, je vous accompagne pas, my bad, là, mais... Ah, ouais, j'écouterai votre podcast d'urgence au pire.
Oh man, ça va être un podcast d'urgence, là, catastrophe. Je t'écoutais pas assidûment, mais je flânais sur IMDb, parce que des fois IMDb, hein, c'est le fun. Puis il est coté bottom rated movies of all time.
Ok, il est rentré officiellement. Je pense après un certain nombre de votes, là, mais comme.
Ben,
il est à genre 2.5.
Il est à 10 000 votes. Il a 10 000 votes, donc il est officiellement, je pense, éligible à cette
wow. liste.
Et il est dans le top 50 des pires films de tous les temps selon IMDb. Voilà, donc écoute.
Bon, pour ce que ça cool. vaut, mais ouais, c'est vraiment pas le succès annoncé. Puis Universal, d'ailleurs, ils ont une page. Parce que eux, c'est un de leurs seuls films de fin d'année vraiment pour les Oscars. Puis tu sais, Dieu sait que la campagne des Oscars, c'est important pour les studios. L'autre gros film de Universal est en 1917 cette année. Mais ouais. ils ont même un site web, tu sais, For Your Consideration à chaque année. Et là, ils ont complètement enlevé le film de leur page. Puis tu sais, même les vedettes du film sur Twitter ou en entrevue se gênent pas pour dire. C'est pas bon, tu sais. James Corden, tu sais, ouais, on s'entend que c'est pas, mettons, c'est pas la personne nécessairement qui représente le prestige, mais même lui, il était comme, j'ai
non,
pas
entendu. Non, mais c'est un gars de talk show, c'est un gars full positif, tu sais. Habituellement, il dit du bien de
non,
pas mal
ça.
Tout.
C'est ça, puis tu sais, même lui, c'est ça, il est comme, j'ai entendu dire que c'était de la merde, j'ai pas encore vu, ça m'intéresse pas trop. Hey, c'est quand même du jamais vu. Là.
Ouais, mais pensez-y, les acteurs là, qui ont joué là-dedans, puis comme tu as dit, le green screen, le bodysuit, toute la kit. Ta confiance est remise aux cinéastes et aux artisans du film à 100%. Là, t'sais, plus, ils doivent voir le trailer comme tout le monde peut être comme tabarnak. T'sais, fait qu'on les comprend en même temps. Là.
Ouais. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est un film comme ça, veut pas, c'est le résultat qui compte. T'sais, puis dans le sens que tu peux pas en vouloir aux artisans. Puis c'est pour ça que les acteurs et les techniciens sont toujours un peu imperméables aux mauvaises critiques d'un film. T'sais. Si tu travailles au décor sur un film comme ça, c'est quand même impressionnant. T'sais. Ou si tu travailles au costume sur un film médiocre, si les costumes sont bons, ça va. Là, c'est surtout les scénaristes et les cinéastes qui vont en prendre pour leur plume.
Fait qu'on parle-tu de Star Wars ou on n'a pas fini encore les actualités? Là? Non, je t'inquiète.
Dernière petite chose, la bande-annonce de Tenet de Christopher Nolan est sortie. Ouais.
Mais il y avait déjà un petit teaser qui jouait juste au cinéma depuis un certain temps.
Mais là, on a un premier gros aperçu de ce film-là. Est-ce qu'on a hâte, Christopher Nolan, l'été prochain?
Ben, c'est toujours un événement. Hein. Je pense que...
Ouais, ben moi...
Ouais, vas-y.
Pour moi, l'affaire, c'est que la bande-annonce n'a pas l'air de révéler grand-chose, puis c'est pour le mieux, mais le fait que Christopher Nolan dise lui-même, tu sais, je veux dire, on parle du gars qui a fait genre Interstellar, un film qui est tellement ambitieux que ça se replie puis que ça implose
sous son poids
tu sais, et puis là il dit que c'est son film le plus ambitieux jusqu'à date, fait que ça en partant ça m'intrigue plus que quelconque bande annonce là, mais je sais pas pour vous.
Ouais ben tu sais, en même temps Nolan, moi il y a une partie de moi qui a comme hâte qu'il réessaye un genre de qui revienne un peu à l'air de pas de Memento mais qu'est-ce
ben moi ben oui je veux dire ou même Following qui est son plus petit film mais qui reste la genèse de tout ce qui fait son style, tu sais. Puis
on dirait qu'entre deux méga productions là, ça se pourrait comme un Nolan qui réessaye de connecter avec une histoire, tu sais, par des personnages d'une façon peut-être plus sobre, mais peut-être avec toutes les trucs, hein. C'est un prestidigitateur, Nolan, on n'arrête pas d'en parler, mais tu sais, tous les trucs qu'il a de son chapeau, mais comme comment il pourrait peut-être intégrer ça à quasiment à un huis clos ou à quelque chose de.
Ouais, ben ça sera pas ça parce que il a clairement genre. Dans les petites parcelles d'intrigue qu'on reçoit, il va y avoir du voyage dans le temps, tout ça, je veux dire.
Ah non, mais je parle pas de Tenet, je parle de comme ce que j'aimerais possiblement que Nolan.
Non, là, avec un film en 30 millions, mettons, tu sais, ouais, mais.
Ouais.
Ben, parce que mon problème avec son cinéma, c'est que, je veux dire, puis c'était mon problème avec Dunkirk, qui est un film qui m'avait laissé complètement froid, c'est que toutes les petites parcelles d'humanité ici et là réussissent pas à briser l'espèce de membrane. L'espèce de dogme des concepts narratifs, dans le fond, tu sais. Puis je veux dire, on en est constamment. On réussit pas à se défaire de ça. Puis je veux dire, Dunkirk, c'est un film qui a beaucoup de mérite technique, on s'entend.
Ben,
mais
c'est ça, c'est un beau trip en salle, Dunkirk, mais c'est peut-être
oui,
pas.
Oui, alors que tu tournes à Memento puis Following, puis il y a vraiment des. On est avec des personnages loners, tu sais, je veux dire, alors que maintenant on est dans des films d'ensemble, là, on est à l'opposé. En tout cas. Ouais, Nolan, s'il m'entend quelque part, un petit 30 millions, tu sais, son petit pain and gain, là. Un petit pain and gain.
Le pain and gain de Nolan, moi, je paierais pour voir ça.
Ouais.
Je le vois dans son salon, de genre son château avec son whisky, puis genre qu'il écoute un podcast québécois.
Non, mais ça serait presque...
Écoute Point de vue pour apprendre le français.
Quand c'est le seul prochain James Bond, je pense que je vais faire...
Il y a un petit boy au Québec qui a dit ce que je voulais entendre. Non, mais c'est parce que pour lui, le canevas pourrait pas être plus gros. Ça fait que s'élargir, pour lui, ça serait une contrainte stimulante, serait justement de réduire le canevas, mais il a pas l'air de s'en aller dans cette direction-là. Mais en tout cas,
Hey, mais les gars,
ouais.
Parlant de canevas trop gros puis de films trop ambitieux qui croulent sur leur propre poids, il y a 42 ans, dans une galaxie très lointaine, est née une saga. dont le 9e épisode, le tant attendu retour de J.J. Abrams, The Rise of Skywalker, Star Wars. Donc, 9e épisode numéroté, 11e film de la franchise officielle. Et donc, enfin sur nos écrans, dans tous les formats imaginables ou pas. sur tous les écrans, avec toutes les possibilités d'un budget infini, en fait. J.J. Abrams qui a repris le flambeau, en fait, après que Colin Trevorrow a été évincé de la chaise du réalisateur, qui succède donc à Rian Johnson et son The Last Jedi, qui est très divisé, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont détesté
le film de la nouvelle trilogie.
Beaucoup de gens qui ont adoré. J.J. Abrams qui nous avait évidemment donné l'épisode 7 de Force Awakens, qui avait également été aux commandes du reboot de Star Trek. Donc, qui est passé premières armes au sein d'une grosse franchise, d'un gros carré de sable, avec des personnages iconiques. Et donc, il nous donne Star Wars 9, The Rise of Skywalker. Là, on est trois à l'avoir vu. Puis, OK, déjà, avant qu'on commence à en parler, je pense que c'est le genre de film... Pis c'est le genre de saga qui enchaîne ses passionnés vraiment. Mm-hmm. Puis c'est à peu près impossible d'en parler sans spoiler un minimum ou sans... Tu sais, il y a des gens, je sais, qui n'écoutent même pas les trailers et qui ne veulent même pas savoir c'est qui est dans le film. Bon, vous vous doutez qu'il y a certains personnages principaux qui reviennent, là, qui étaient dans les deux précédents films, mais pour vrai, si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas en entendre parler, on n'a pas le choix quasiment de parler de certains trucs. On ne va pas tout donner, évidemment. Mais vous viendrez nous écouter après avoir vu le film, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait.
Ouais. En même temps, le plus gros twist est dans le fucking texte déroulant du début, là, on peut se le dire.
Et dans la bande-annonce, et donc, tu sais, ceux qui ont un minimum été alertes ou qui ont vu ça passer, savent que, donc, Palpatine est de retour.
Oh là là.
L'empereur Palpatine, avec... ben, l'acteur est très très cool, hein, c'est le même acteur qui était dans la trilogie des préquels. De George Lucas.
Ben, puis des originaux, en fait, c'est ça qui est fou. C'est qu'il a joué Palpatine sur...
Les anciens, non, c'était pas lui.
Ouais, c'est Yann... comment il s'appelle déjà?
Yann McDiarmid, ouais.
C'est-tu
ouais.
vraiment lui qui était dans le Return of the Jedi?
Ben, il me semble que c'est lui là, qui a fait les originaux aussi.
Il me semble que j'ai l'impression que George Lucas, genre, digitalisé sur les éditions spéciales, après le...
T'as peut-être raison. Je pense que c'est seulement lui à partir des éditions DVD.
Ouais, exact. Genre, je l'ai sous les yeux. Il a été édité quand George Lucas a fait ses Redux. Pour ça. Oh my god.
Donc, bref. Fait que oui, mais en tout cas, le même acteur que dans la trilogie des préquels. Il est de retour. Et bon, évidemment, tous nos personnages sont toujours là pour un peu défaire le Nouvel Empire et le Premier Ordre. On sait que Kylo Ren, ça va pas très bien. Il a aidé un peu Rey dans le dernier épisode. Non, mais ces films-là, c'est tellement comme un épisode de télé. Il faut être au courant un peu de ce qui se passe avant. Parce que avec ma copine, elle voulait qu'on y aille ensemble à un moment donné. Puis j'ai dit, comme, t'as-tu vu au moins les autres films? Puis comme, ouais, j'en ai vu quand j'étais jeune. Il y a des courses, puis des lasers, puis ça. Puis comme, ouais, mais tu sais, je pense que t'auras pas vraiment de fun. Puis là,
surtout ce film-là. Là.
Ouais. Puis là, j'ai dit, tu sais, mettons, OK, est-ce que tu sais, c'est quoi le personnage d'Adam Driver? Puis elle me dit, Adam Driver, je joue dans Star Wars. Puis là, j'étais comme, ouais, tu sais, quoi, t'sais, t'es mieux de laisser tomber. Là. T'auras pas de plaisir. Il va falloir que je t'explique un peu qui est quoi. Puis c'est un film qui va très vite aussi, tu sais, qui dure quand même 2h15, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Bon, ça, on peut en débattre, mais du moins, le rythme est très prenant. Fait, qu'est-ce qu'on a pensé, les gars, de...
Hey, j'essaie
de rester... Oui, vas-y.
juste une petite étoile, là. Ian McDiarmid jouait l'empereur dans Return of the Jedi. Il a commencé en 83.
Ah, bon, mais ça a toujours été lui.
Donc, c'est juste dans le Empire Strikes Back qui a été réédité. Donc, pour tous les geeks qui criaient là, à leur podcast.
OK, c'est bon.
Bravo, Rémi, de nous ramener du côté clair.
Ouais, du gros contenu là, important.
Un peu de street cred ici, là, les amis.
Merci.
Ben, qu'est-ce qu'on en a pensé, les gars?
Je peux-tu me lancer?
Oui, vas-y.
Mais c'est parce que ça a été tellement dit, mais ce qui est juste obvious puis qui est épouvantable, c'est que il n'y a rien qui a été prévu d'avance. Puis ça a été dit et redit dans toutes les critiques de la trilogie, mais moi, ce film-là m'a fait moins aimer les deux autres. Parce que...
Ben, il les invalide un peu.
Je trouvais que... Moi, j'ai vraiment aimé Force Awakens, puis peu importe, autant que ça reprenait des lignes narratives des originaux, ça me dérangeait pas trop, parce que j'allais voir Star Wars, j'allais voir un beau divertissement, j'allais voir le début d'une nouvelle saga, je m'attends... Tu sais, c'est un peu des pantoufles, là, j'étais comme confortable avec ce début-là, puis je trouvais qu'il mettait des belles bases puis des belles intrigues, mais on le sait depuis Lost que J.J. Abrams, c'est pas le meilleur pour finir des films. Même, tu sais, c'est long métrage, Super 8, le début est incroyable, la fin est épouvantable, c'est... Tous ces projets...
C'est abominable.
Ben, c'est ça, puis là, qui a laissé en plus une carte blanche à Ryan... non, c'est pas ça, Ryan Johnson, voyons, celui du middle, là, en tout cas, celui qui a fait Last
Johnson,
Jedi.
Ouais, Ryan Johnson. Que son Knives Out, je pense pas qu'on aura le temps de l'accrocher, mais moi, je l'ai vu en passant, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun, hein, comme film.
Ouais,
comme
très
conseille à je conseille ça à grand vent. Je trouve que...
Ouais, c'est un très bon film des fêtes, ouais, là, de famille, ouais, là, à voir.
C'est difficile de pas aimer ce film-là, d'une certaine façon, c'est très généreux, c'est le fun. En tout cas, bref, tout ça pour dire que... Oui, mais continue, Rémi.
Ben, tout ça pour dire que c'est un cinéaste indie qui a fait un peu son affaire avec son film, mais qui n'a pas suivi le layout que J.J. Abrams a commencé dans le premier épisode. Fait qu'il a fait un peu son affaire. Puis là, ce film-là, ce troisième-là, on dirait juste qu'il a essayé de racheter les erreurs du dernier film, les trucs que les gens n'ont pas aimés. Fait qu'au final, c'est un peu n'importe quoi, là, le film. Là. Moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Je dirais pas que c'est pire que la trilogie épisode 1, 2, 3. Là. Ça, les avoir revus une couple d'années, ça reste dans le pire que ce que Star Wars peut offrir. Mais pour moi, c'est le pire de tout ce que Disney a fait à date. J'ai trouvé ça pire que Solo puis que Rogue One. Là. C'était vraiment bordélique. La première demi-heure, on est comme sur 8 planètes différentes, puis on sait plus trop on est où. Il faut qu'il aille chercher un truc, un genre de pyramide, pour aller genre, chercher un autre truc à une autre place.
Ouais, c'est, très...
c'est juste une chaîne d'action.
C'est très
comme
méga
un jeu
fun,
vidéo, là, tu sais.
Ouais, ouais.
Fait que, je sais pas, en fait, il y a comme... Tu sais, autant que le dernier, Last Jedi, ça vit comme une bébite en soi, là, puis il y a des beaux moments de cinéma, je trouve, dans Last Jedi, mais celui-là, je sais pas ce qui va me rester dans un an de ce film-là. Il y a comme pas de scène spectaculaire. Je dirais que mon...
Même,
je dirais...
La
non,
fin,
sérieux,
là.
Je trouve que...
La fin, là. Il y a des bonnes affaires,
ça fait,
là.
Je trouve que ça fait... Calmer. Je trouve que ça n'a pas vraiment de sens, là.
Non.
Puis la seule chose sur laquelle je m'attache, c'est les comédiens, puis spécialement ben Adam Driver. Je trouve que Kylo Ren, il y a vraiment une belle courbe de personnages intéressante, mais les autres personnages, ils n'ont plus rien à faire.
Ben, Daisy Ridley a le plus de chair sur ce film-là, je trouve. Je l'ai trouvée meilleure comme comédienne. Je trouvais qu'elle faisait moins canevas blanc là, d'Avatar un peu, c'est ça, là, sur lequel on peut transposer n'importe quel fantasme ou je sais pas quoi. Tu sais, je trouvais que là, non, elle a comme une once de personnalité, puis je trouvais qu'elle se débrouillait pas si mal dans un éventail de... Elle pouvait être parfois drôle, parfois... fâchée. non, tu sais, bon, les 4-5 émotions, mais elle les faisait bien, tu sais. Non, je sais pas.
Correct, là, je sais pas, là, je trouve que... Ils font la job, là, mais j'avais l'impression que c'était comme une liste de trucs à plugger dans le film pour que tout le monde soit un peu content. C'est un film comme consensuel, là, pour faire plaisir à tout le monde. Fait que finalement, il y a comme... Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de parti pris puis de storyline qui fait du sens, là. Vraiment, pour moi, c'est mon pire là, des nouveaux films. Là. Tant qu'à faire, tu sais, je veux une voix qui prend le film et qui a quelque chose à dire, puis qui a comme un parti pris esthétique, mais c'est ce que au moins je trouve que peut-être Rogue One a fait, même si j'ai pas tant aimé ça. Ce que Solo a fait, même si j'ai pas tant aimé ça. Celui-là, je trouvais que ça ressemblait à bien d'autres blockbusters, puis il s'est perdu un peu dans son histoire. Il y a comme... Il y a rien qui est... Tu sais, tu te fais présenter des personnages, puis là, la scène d'après, ils sont plus là, puis ça servait pas à grand-chose qui était là. Il y a genre Lando qui pop, puis qui chill un peu, puis qui sert pas à grand-chose dans le film, à part être Lando, puis... Je sais pas, là, ça allait tellement vite que on dirait que mon cerveau était pas capable de processer ce que j'aimais pas sur le coup. Parce que là, tu sais, t'es une minute avec les personnages, là, genre une ellipse de quelques minutes, puis là, ils sont déjà dans le vaisseau, puis là, une ellipse de quelques minutes, puis là, ils sont sur une planète, puis là, ça va super vite, puis t'en mets tellement dans la tête que tu te laisses comme un peu aller là-dedans, mais à la fin, qu'est-ce qui reste de ce film-là? Pis surtout, ben, qu'est-ce qui reste de cette trilogie-là, en fait?
Ben, moi, je vais rebondir sur plein de choses que tu dis, Rémi. Premièrement, bon, il y a une chose... c'est pas, je pense qu'on pourra jamais le prouver, mais selon les rumeurs, le scénario de Colin Trevorrow pour clore la trilogie se basait beaucoup sur le personnage de Carrie Fisher, de Léa, donc de la princesse Léa.
Ouais.
Et évidemment, les événements réels ont fait que ça a changé vraiment les plans. Et tu sais, ça, évidemment, c'est un drame réel et on peut rien y changer. Donc, tu sais, je trouve quand même que son personnage a été traité avec goût malgré les circonstances.
Oui, la fatalité de son personnage aussi, comment qu'il évolue jusqu'à sa conclusion. C'est fait avec goût quand même.
Et puis ça, je peux comprendre que ça n'a pas été facile pour personne en termes créatifs. Quand tu parlais justement de rythme, Rémi, c'est ça. Je pense que la principale chose, ben, il y a plusieurs choses, mais une des choses vraiment que... Pour moi, personnellement, ça distingue, mettons, cette trilogie-là et les cinq films sous l'égide Disney de l'ère Lucas, c'est l'idée de la pause. L'idée vraiment du temps mort et du beat. Parce que Lucas, on le sait, c'était vraiment un cinéaste cinéphile qui avait tout appris de ses maîtres japonais. Et s'il y a vraiment quelque chose dans les films de sabre duquel est beaucoup inspiré Star Wars et le son qu'avait également retenu Léoné, qui s'inspirait beaucoup de Kurosawa, c'était que ce qui est quasiment plus intéressant que le clash de sabre, c'est la pause avant, c'est le regard soutenu, c'est la tension palpable qui devient électrisante. Si bien que lorsqu'enfin les gens s'élancent et que les sabres se touchent, il y a comme vraiment un relâchement de la tension qui est comme... T'sais, qui est vraiment énergique. Tandis que là, il n'y a comme pas de pause. Il y a comme des espèces de combats qui commencent.
Il doit avoir
2 minutes
de son. C'est un film de 2h20. Il doit avoir 2 minutes pas de musique, je pense.
Ouais, puis.
Sérieusement, là, c'est un marteau là, sur notre cerveau là, incessant. Là. Je veux bien John Williams. Ouais. Là, elle est bonne, la musique. Là. Mais là, je veux dire, il y a vraiment. Là, c'est du TDAH fois 1000 à la puissance 1000.
Ouais, puis
il y a
ça,
vraiment
vrai,
pas de pause.
Ça vient vraiment faire que tout est un peu. Correct. Il n'y a rien vraiment, il n'y a pas de climax, il n'y a pas de temps mort, mais on a besoin de ces temps morts-là. Puis tu sais, je sais que tout le monde chiale sur Lucas depuis 30 ans, puis je sais que les préquels, c'est pas les films les plus appréciés, mais tu sais, il y avait vraiment une conception du montage, du travail musical. Puis tu sais, effectivement, t'sais, John Williams, je l'aime bien, mais il n'y a comme aucun nouveau thème, mettons, de la trilogie que je retiens. Les meilleurs moments, moi, c'est genre... Mais, tu sais, je trouve qu'il y a quand même plein de bonnes choses dans Rise of Skywalker, mais la plupart du temps, c'est parce qu'il reprenait encore un cue de genre...
C'est ça, exact.
Le thème de l'Empereur, la marche de l'Empereur, ou encore le Binary Sunset, puis des trucs comme ça, fait que tu sais...
Oui, elle a un thème, mais il est pas tant... Ben, il est là, mais là, on a comme eu la marche de l'Empereur un peu... Ça, la marche de l'Empereur, c'est ça, hein? Je pense à des pingouins quand je dis ça.
Ben, l'Imperial March.
OK, c'est bon.
Puis tu sais, mettons...
Il est utilisé un petit peu, mais il est pas... je sais pas, là, c'est juste du copier-coller, là, sinon...
Puis bon. Tu sais, il y a des gros moments forts dans cette trilogie-là, comme il y en avait dans les films précédents. Puis tu sais, je parlerai pas exactement de qu'est-ce qui se passe dans ce film, des punchs ou des gros moments forts, mais tu sais, mettons, dans Empire Strike Back, là, le fameux twist, tu sais, je suis ton père, ça, bon. Ce qui marche de ce film-là, dans cette scène-là, c'est au-delà de la ligne puis au-delà de la trouvaille scénaristique, c'est tout vraiment les pauses, la façon que le dialogue est mené. Ça te laisse vraiment le temps, en tant que spectateur, d'absorber l'information puis de capoter en même temps.
Il y a un crescendo dans ce film-là. Tu sais,
il y a vraiment un crescendo. Puis les cues musicaux là, dans la trilogie originale puis les préquels, là, ça marche fort. Là, puis, tu sais, je veux dire, mettons, on aura beau charler là, sur l'épisode 1, là, mais comme la scène là, où Dark Maul ouvre ses sabres, son double sabre pour la première fois avec le nouveau thème de l'épisode 1, là, musical, là, hey, ça marche à mort ce plan-là, puis tout le monde s'en rappelle. T'sais.
Ouais, puis tu sais, écoute, moi pour amener mon grain de sel, parce que moi j'ai pas vu l'épisode 9, non seulement j'ai pas vu l'épisode 9, mais j'ai pas vu l'épisode 8.
Ah ouais.
Moi, je suis pas le plus gros fan de Star Wars à la base. J'ai arrêté à Force Awakens parce que ça m'avait emmerdé, puis je trouvais pas que j'avais grand chose à redécouvrir dans cet univers-là. J'ai peut-être ou peut-être pas raison, parce que j'ai pas vu les deux derniers, mais. Man, je repensais au prequel de George Lucas, puis je me dis, man, je le sais qu'objectivement, c'est pas des super bons films.
Mais même Star Wars n'est pas un super bon film.
Il y a la conception vraiment particulière d'un univers dans les prequels, puis ça reste. Ouais. Revenge of the Sith, c'est un film qui est fort, étrangement, vraiment fort émotionnellement, tu sais. Qui a vraiment, justement, des beats que tu parlais, là, je trouve que ça atteint son paroxysme, c'est pas juste pour le film, mais c'est comme si les deux films d'avant menaient vers quelque chose.
Ben, c'est ça.
Un peu d'inévitable, tu sais. Puis. Ouais.
C'est pour ça que je dis que si JJ avait eu sa trilogie, si lui a fait la trilogie, j'ai l'impression qu'on aurait eu comme quelque chose d'un peu plus satisfaisant comme final. Tu sais, parce que ce film-là, souvent, je trouvais qu'il se sentait comme un 2. Ça avait l'air comme du milieu de la trilogie, mais tout est rushé pour arriver à la fin puis closer la trilogie. Mais parce que le deuxième dans cette trilogie-là fait beaucoup trop d'erreurs, entre guillemets. Là. Donc là, il est là à essayer de rattraper des affaires, puis ça a l'air d'être des morceaux du milieu, mais finalement, ben il faut qu'on finisse. Fait que voilà, voici la fin. Fini, bonsoir, tout le monde est content, on est correct? Ben... OK, bye.
Moi, je suis un peu sceptique parce que je pense que J.J. Abrams, en termes de cinéaste, c'est pas quelqu'un que il est très bon pour avoir des gros budgets, puis pour orchestrer tout ça, puis à mettre du spectacle, la poudre aux yeux, mais je pense pas qu'il est capable d'avoir l'impact émotionnel par le montage, par les silences, par l'utilisation de la musique que Lucas possède, selon moi.
Il a tout le temps essayé d'être un genre de...
Spielberg.
Spielberg 2.0, mais je veux dire, tu checkes un truc, comme on a parlé de Super 8 tantôt, là, qui pour moi est un film... qui est vraiment l'équivalent d'une coquille vide d'un Spielberg, là, qui a rien dedans.
Non, je pense qu'il n'a jamais dépassé ses maîtres. Je pense qu'il a toujours imité,
ouais.
Il n'a jamais vraiment intégré les leçons pour avoir son propre cinéma, selon moi.
Ouais.
Il y a des flares.
Ah, il y a une couple de flares.
Autant que dans Star Trek.
Il y a quand même un film là-dessus, là. Mais...
Moi, j'ai quelque chose à dire.
Vas-y donc.
Au risque de... Moi, écoute... Ben, Disney a officiellement tué Star Wars. Moi, je pense que c'est ça. Si bien que je n'avais aucune attente. N'ayant aucune attente, c'est la première fois que je ne prenais pas le film que j'allais voir au sérieux. Puis, je vais commencer avec de quoi de bien bébête, là. Mais moi, j'ai eu du fun. Moi, j'ai aimé, là, The Rise of Skywalker. Puis, j'ai plein de choses à dire dessus. Moi, là, je trouve, là, qu'en fait, puis là, c'est là où Rémi, ça se trouve, on va se battre dans la boîte après, là. Mais moi, je trouve que le pire de cette nouvelle trilogie-là, et de loin, en fait, c'est The Force Awakens pour moi.
Ah, ouais.
Ben oui, parce que.
Ah, c'est des bonnes nouvelles pour moi, ça.
On est vraiment dans le c'est du fanservice. Tu sais, il est vraiment coupable d'un nouveau mal du siècle, là, de nostalgie, puis de bombe sur la nostalgie, puis tu sais. Puis j'en avais parlé au podcast, mais moi, là, de l'âge Jedi. Il m'a redonné envie. Puis après ça, c'est les films spin-off, puis Mandalorian, puis là, le fait qu'il y a tellement d'affaires Star Wars qu'à un moment donné, là, il y a un effet de saturation. Puis, mais en même temps, moi, j'arrivais dans Rise of Skywalker fort de mon appréciation de l'âge Jedi. Je trouve que l'âge Jedi était... On en avait parlé, mais je trouve que c'est un film fucking effronté, genre. C'est comme si c'était un film de Disney qui a pas fait aucun test screening, puis qui ont décidé de juste donner ça, puis genre, deal with it, motherfucker, là, tu sais. Genre, il faisait ce qu'il voulait, ce film-là. Puis, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il y a des scènes abominables, on en a parlé, là, c'est toi-même, Paul, je pense qu'il avait utilisé l'analogie Mary Poppins dans l'espace, là.
Ouais. Mais ça, je suis d'accord, là, jusque-là... Pour le meilleur et pour le pire, Last Jedi, il a ses forces, là.
Moi, je trouve qu'il y avait vraiment ses forces, il y avait vraiment ses moments. C'est parce que, en fait, j'ai jamais pris la mythologie Star Wars autant au sérieux que d'autres gens. C'est-à-dire, moi, pour moi, que Luke, il devienne un peu un genre de asshole, réclus sa planète, ça m'insultera pas. Moi, j'ai une vie, là, j'ai d'autres préoccupations.
On va pas non plus se moquer des gens qui sont passionnés.
Non, je sais, je veux pas être méchant, là, mais tu sais, c'est... En tout cas, je n'ai pas cet attachement. Et en même temps, je les ai vus comme combien de fois, man? Je pense 12 fois chaque, là, quasiment la trilogie originale, tu sais. Non, je suis assez geek, je suis assez fan, c'est juste qu'à un moment donné, c'est ça. Tu sais, la mythologie, il faut qu'on accepte qu'elle vient de diverses sources, que le temps change, que c'est une pâte qui est modelée à travers des mains, des visions. La rendue là, ça vaut de l'argent. Donc, il y a des conglomérats puis des actionnaires qui passent quasiment là-dedans, j'imagine. Il faut comme accepter que Star Wars est devenu cette espèce de corporation-là.
Combien de livres et de jeux vidéo, je veux dire, qui eux-mêmes ont écrit leur propre histoire dans les marges de l'univers, là, tu sais.
Ben, c'est ça.
Parce que là, je suis d'accord, là.
Mais c'est ça. Donc ça moi, en voulant dire que je n'ai pas... j'aime mon Star Wars, mais j'ai pas cet attachement-là. Bon, tout pour dire que... Et que moi, j'étais donc un des défenseurs de toutes les esties d'audace qui ont quand même fâché plusieurs spectateurs dans The Last Jedi. Et là, on arrive de Rise of Skywalker. Je suis vraiment d'accord avec vous. Je trouve que le film, il y a comme une défaillance au niveau du rythme. Tu sais, c'est le fameux « trop comme passé », définitivement. Je l'ai même dit, le trop de musique, je veux dire, à maner, pour que je me tanne de la musique de John Williams, là, puis que j'avais envie que ça arrête, c'est fort, là, tu sais, c'est fort, là. Faut vraiment le faire. Mais moi, j'ai quasiment aimé la simplicité, tu sais, je trouvais que oui, c'était encore un peu une histoire de, bon, faut chercher une gogosse magique qui va nous amener quelque part pour que... c'est ça, là, c'est une quête, là, jeu vidéo-esque, là, on est pas dans
l'espèce de pires
film.
Marvel, tu sais, c'est les pires Marvel ont fait ça, là, pour moi, là.
Ouais, mais je sais pas, on dirait qu'ici, c'était comme le bienvenu parce que le film est un peu embourbé dans une galerie de personnages qui est peut-être trop... Il y a peut-être trop de personnages, puis c'est une question à se poser, là. Peut-être qu'on a trop fait éclore ces personnages-là, puis que paradoxalement, on a trop pas eu de temps avec eux.
Puis on a rajouté en plus, c'est ça l'affaire, c'est que t'as des bons personnages qui demandent à être construits, mais on introduit des nouveaux en plus dans ce film-là.
Absolument. Bon, donc, exactement. Il y a comme tous ces défauts-là, mais tu sais, c'est un peu de la même façon que, tu sais, Star Wars, le premier, là, il y a peut-être deux affaires qu'on peut dire objectivement, c'est vraiment sur la grosse crise de coche. C'était peut-être le sound design et la musique. Les effets spéciaux, correct aussi, tu sais. Mais sinon, là, il y a plein de défaillances dans le film Star Wars. Qu'est-ce qui fait que ça a autant marché? C'est vraiment plus que la somme de ces parties. Puis moi, surprenamment, en fait, The Rise of Skywalker, écoute, j'ai comme eu du fun, puis on dirait que j'ai pas envie de trop le prendre au sérieux plus que ça. Moi, je suis comme sorti avec le sourire, je sais pas quoi dire.
C'est une bonne ride, mais tu sais, je pense que c'est juste que...
C'est une bonne ride.
Puis peut-être que c'est correct aussi que ces films-là sont pas pour nous, puis qu'il y a une nouvelle génération qui grandit avec ces films-là, comme peut-être nous, on a grandi avec les préquels. Étant notre âge, mais tu sais, c'est juste que Star Wars à l'époque c'était comme l'événement, tu sais.
Ouais,
c'est comme le
blockbuster pour les tuer tous, tu sais. Alors que maintenant, là c'est rendu un film parmi d'autres qu'on va voir dans l'année, tu sais, qui est comme au même niveau qu'un Avengers, qu'un Mission Impossible, qu'un Fast and Furious, tu sais. Pour moi, ça devrait pas être le cas. Et je trouve que l'ère Disney prêche par excès de recyclage et de nostalgie.
Écoute,
comme un Jurassic World, comme ces films-là, comme tu le disais, le mal moderne, le du recyclage 2.0. Et j'ai hâte, justement, je suis un peu excité quand même pour le futur de Disney, parce que j'ai l'impression que, est-ce qu'enfin on va pouvoir mettre le nom Skywalker aux oubliettes, puis dans les livres d'archives, puis dire, bon, on a raconté cette histoire-là, là, passons ailleurs, tu sais. L'univers est tellement vaste, il y a tellement de planètes, puis de monde à explorer, puis pourtant... On est tout le temps dans la même branche généalogique, tu sais.
Ouais.
Faudrait d'ailleurs un peu, tu sais. Parce que pour moi, c'est ça, on parle de trop de personnages. S'il n'y avait pas tous les personnages des trilogies originales, peut-être qu'on n'aurait pas ce problème-là. Parce que là, plutôt que d'être son propre film, c'est comme un film qui est également une partie d'une trilogie, qui est également une partie d'une saga de neuf films, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est un peu ce problème, selon moi.
Mais je veux juste dire, en fait, c'est pas vrai. J'ai été fâché par une affaire. au niveau mythologie, là. Ouais. Il y a une affaire que je trouve qu'ils n'ont pas eu de guts, c'est-tu. Puis c'est l'affaire de Palpatine, d'une certaine façon. Je trouve que ça converge vers une finale qui est forte, étrangement. Je trouve que on revient avec l'empereur, puis là, on dirait que c'est comme, OK, non, on y va, là. T'sais, moi, j'étais un petit gars quand même dans ces périodes-là. Par contre, moi, j'aimais ça, man, que Rey, ça soit juste comme un enfant de personne. Tu sais, pas un esti... Parce qu'il y a quelque chose de chiant dans l'espèce de lignée sanguine.
On va pas trop dévoiler, par contre, exactement ce qui se passe, là.
Je sais.
Mais c'est vrai que dans le film précédent, c'est ça, c'est que c'était le parti pris de Rian Johnson de dire tu peux être un nobody et devenir quelqu'un d'important.
Absolument.
Et ce film-là vient un peu nullifier ce statement et dire non, tu dois être prédestiné et faire partie de la noblesse. C'est un peu
d'une
ça.
Genre
le,
d'élite.
L'exceptionnel. Ouais, c'est ça.
Ça, ça m'a agacé, je t'avoue. C'est peut-être le seul point où je sortirais quelque chose de plus large que le film là, pour le critiquer. C'est un peu sur cette base-là. Ça, ça m'a un peu déçu. Mais bon, après.
Mais dans Mythologie aussi, ils ont changé complètement l'usage de la force. Là, elle est rendue qu'elle peut guérir du monde, elle peut sauver. C'est, on s'entend-tu là, que il y a un slogan là, qui était sorti avec, le, avec les derniers films, là, puis Red Letter Media l'ont fait spinner pas mal sur YouTube, mais c'est le « No one's ever really gone ». Dans le film, il y a comme quatre personnages qui meurent, puis que la scène d'après, ils reviennent « out of nowhere » parce que qu'on voulait créer du drama, là, créer du drama dans la gorge des spectateurs. Puis,
sans y aller à fond.
On l'assume pas, puis la scène d'après, ils reviennent. Puis... Sérieux, là, moi, pour moi, il y avait rien là, qui m'accrochait à j'ai peur pour eux ou je veux savoir qu'est-ce qui va se passer pour eux. Il y a une espèce de guerre vers la fin là, où là, ils marchent tout à coup sur des vaisseaux. Là, pas de les enfants, je peux accepter, là, mais qui ont comme pas de combinaison spatiale ou rien, puis qui courent sur un vaisseau. Tu sais, il y a une atmosphère sur le vaisseau.
Ouais, tu sais, quand tu tues la propre physique de ton univers, c'est comme...
C'est vraiment bizarre.
Je sais pas si tu te rappelles Matrix Revolutions, là, genre, dès le moment où Neo, genre, tue une machine, comme dans le vrai monde, avec ses pouvoirs psychiques, là, c'est comme, OK, bravo les Wachowski, vous avez tué tout l'intérêt de cet univers-là avec ça. Genre.
Ben, c'est ça. Pour moi, c'est ça,
avec un truc, là.
Écoute, mais moi, moi pour de vrai, ok. Puis c'est ça que je trouve triste parce que Paul, tu viens tout de bien dire les choses, c'est qu'effectivement, je pense que il y a plus l'espèce d'anticipation autant qu'il y a déjà eu autour de Star Wars. J'ai pas vu Mandalorian. Apparemment que j'ai des amis, des gens autour de moi qui le visionnent puis qui trouvent ça franchement pas mal. Donc, mais je peux pas dire. Mais c'est juste la saturation en fait. C'est ça. Puis c'est l'excès, c'est de l'excès. Puis ben, c'est dommage parce qu'effectivement il y avait un certain saut de prestige qui n'est plus là. Mais comme je disais, paradoxalement, ça a fait que je t'allais avec aucune attente et que j'ai eu du fun. Donc, à un moment donné, c'est aussi, ça peut être correct de ne pas avoir trop d'attentes.
Moi, je vais te dire, Pascal,
c'est un triste constat, mais c'est correct aussi.
Mes attentes n'étaient pas dans le tapis non plus. Avec les reviews qui étaient sorties, tu sais, le film était à 55 sur Rotten Tomatoes. Puis L'Âge Jedi, pour moi, c'était un hit and miss. Puis mes attentes étaient pas hautes. Puis j'ai trouvé ça, je serais pas épouvantable, là, mais tu sais, c'était juste quelconque, là, tu sais... Rendu là, t'sais, Marvel, ils gèrent mieux leur univers. Là, tu vois qu'ils savaient juste pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis, tu sais, que Palpatine, ils reviennent. Doesn't make any sense. Là. Rendu là, là on peut faire n'importe quoi. Là, je sais pas. Là. Il y avait cet le méchant Snoke, l'autre réalisateur l'a tué. Fait que là, tu sais, il y a comme une scène d'intro là, où il y a Kylo Ren qui marche pour aller voir l'empereur. Puis là, il y a comme des buckets avec des Snokes qui flottent dedans. Là.
Ouais, je m'en souviens très bien de ça. Je veux juste dire encore une fois, là, passons une note positive, parce que moi, j'ai quand même du positif à dire de tout ça. Je trouve que c'est trop PO, c'est quand même l'étoile du match. Ben ouais, tu sais, je trouvais que c'est comme l'ultime sidekick, puis c'est comme la première fois que j'ai réalisé, puis en plus, tu sais, ils font un peu la promo autour de ça, hein, c'est le seul acteur qui est... mon Dieu, j'ai oublié son fucking nom, c'est quoi son nom?
Anthony Daniels.
Oui, c'est ça. Ouais. Bon, bref, vois-tu, c'est poche, mais bon. Et il est des 9 films, puis... sans rien comme trop révéler, là, mais le rendu là, si vous l'écoutez le podcast, j'imagine que vous l'avez vu, mais bon, bref, je révélerai rien pareil. Il y a quand même une scène autour de ces trois PO qui m'a comme ému un peu.
Mais c'est quand même décevant que tous les points forts du film, c'est soit des cues musicaux ou des personnages qu'on a déjà vus il y a 30 ans. Là,
mais tu vois, t'as raison.
Pascal, il y a une scène émouvante avec ces trois PO, mais... No one's ever really gone.
Je sais.
C'est ça l'affaire, c'est que il y a rien qui a des conséquences dans le film. Ça finit juste par on s'en fout finalement. Puis tu sais, c'est comme une scène émouvante par rapport aux personnages qui sont dans la nouvelle trilogie. Tu sais, justement, il a fait l'arc des 9 films. Pourquoi on fait pas rendu là des clins d'œil aux personnages qu'il a rencontrés dès le début là, le jeune Anakin puis tout. C'est Ray, puis en tout cas, je trouvais ça un peu ridicule. Là. Je trouvais ça un peu tiré par les cheveux, mais bon, tiré par les cheveux, c'est Star Wars en même temps. Mmh. Okay. Mais je pense que ça prend une certaine constance narrative. Là.
comme mot final, j'aimerais m'adresser à J.J. Abrams et citer Obi-Wan Kenobi qui disait « You were supposed to bring balance to the Force, not destroy it. »
Oh!
Voilà. Écoutez, non, allez,
vous êtes trop méchants, vous êtes trop méchants. Moi, c'est un 6 sur 10. Moi, c'est un 6 sur 10.
Oh my God!
Ouais, non, mais ouais, c'est bien,
moi, c'est une tomate fraîche, moi.
C'est correct, mais ça devrait être plus que ça, un Star Wars.
Je sais. C'est triste qu'un 6 sur 10, on soit comme « Hey, j'ai aimé ça! »
Ah, en fait, Pascal, je sais que mes reviews sur Letterboxd, 6 sur 10, moi aussi.
Ah, bon, ben...
Ouais. Ouais. J'ai pas... Mais le truc, c'est que j'ai pas... Je le blasse, mais pour moi, j'ai pas haï ça. C'est juste que je me suis assis dans un cinéma, j'ai été d'homme pendant 2h15, je suis sorti, puis j'ai comme rien retiré de ça, là, tu sais... J'étais comme, bon, ben, c'est passé, là, c'est fini, une affaire de régler. Puis...
Ben, je te relance, Rémi, 6,5 sur 10. C'est moi qui donne 6,5 sur 10.
Ah, bon, parfait.
Voilà.
Parfait.
Voilà, c'est dit.
Pascal, il remporte les enchères. Donc, on va. C'était notre point de vue cette semaine. On va se quitter sur la bande-annonce du film 1917 de Sam Mendes.
Yeah!
Il
y a ça qui se passe.
Ou Dunkirk 2.0. Donc, voilà, c'était notre point de vue. On avait comme invité cette semaine Benjamin Pelletier. Benjamin, merci d'avoir été des nôtres.
Hey, merci à toi. Merci à vous, les chums.
Mon nom est Paul Andréau. J'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal, fan de Cats. In your own time, gentlemen. Must be something big if the channel's here. You have a brother in the 2nd battalion. Yes, sir. They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre. We've got orders to cross here. That is the German front line. Hold back! If we're not clever about this, no one will get to your brother. I will. There's only one way this ends. Last man standing. I'm going back to see my father. We need to keep moving! Come on! I'm going back. He can't possibly make it that way, man! You bloody insane! Why in God's name did you have to choose me? Please. No, no, no! If you don't get there in time, we will lose 1,600 men. Your brother among them. Good luck.